9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le 26 juillet 1683, on annonce à la cour que la reine Marie-Thérèse est au plus mal, qu'elle est malade. C'est une, on ne peut pas dire que ce soit une surprise, mais c'est une émotion dans la cour. Et 4 jours plus tard, le 30 juillet de cette année 1683, entre parenthèses 1683, vous voyez qu'on est exactement à la jointure, à la jonction des deux règnes de Louis XIV, si je puis dire, le règne de gloire du jeune souverain au sommet, au pinacle, et puis le règne plus difficile qui finira de façon crépusculaire au début du XVIIIe siècle. Eh bien, le 30 juillet 1683, la reine est morte. Et ce sont 4 journées poignantes pour la cour où son mari, bien sûr, et son fils, le grand dauphin dont je vous parlais l'autre jour, et toute sa belle famille étouffent des sanglots. Avant de rendre l'âme, la mourante a murmuré haut dans un souffle à peine perceptible, elle a dit « Depuis que je suis reine, je n'ai eu qu'un seul jour heureux. » Et ça, pour nous, c'est une question, bien sûr. Quelle est, jolie énigme, quel est le jour dont Marie-Thérèse considère qu'il a été le seul heureux depuis qu'elle est devenue reine? Est-ce que ce serait tout simplement le jour de son mariage à Saint-Jean-de-Luz, le 9 juin 1660, autant dire son tout premier jour en tant que reine? La semaine précédente a eu lieu le mariage par procuration, et puis ensuite la présentation au jeune époux. Ils ont 21 ans l'un et l'autre. Ils sont pas trop jeunes, c'est assez rare à l'époque un mariage entre des jeunes gens de 21 ans. Mais dans le cœur de Marie, le bonheur de cette rencontre est terni, disons-le, par l'imminence de la séparation qu'elle va vivre comme un arrachement. C'est toujours le problème de ces reines de France qui, élevées dans des cours loin de Versailles ou de Paris, vont devoir ensuite changer toutes leurs habitudes. Je dis Versailles, à l'époque, Versailles n'est pas grand-chose encore en 1660. L'infante Marie-Thérèse est la fille de Philippe IV d'Espagne. Elle a été élevée, bien entendu, dans toutes les rigueurs de la grande étiquette espagnole, avec déjà quelques difficultés pour l'Espagne. On n'est plus tout à fait dans le siècle d'or, on est en train d'en sortir en tout cas. Et tout ce qui l'entoure, toutes ses habitudes, toute sa suite, tout ça va lui être ravi. Comment voulez-vous que ce soit un moment de bonheur? Il y a peu de chances que la journée à laquelle elle fait allusion lorsqu'elle est sur son lit de mort soit cette journée d'arrachement, finalement. Ce mariage, il vient sceller le traité des Pyrénées, bien sûr, qui met fin à une guerre interminable entre les deux nations catholiques, un quart de siècle de combats fratricides, et pour obtenir cette paix tellement désirée, il a fallu que le cardinal Mazarin, que le parrain du roi donc, et qui en même temps était son principal ministre, négocie avec son homologue espagnol, Don Luis de Haro. La signature, elle s'est faite dans un lieu très symbolique, à mi-distance des deux royaumes, dans l'île des Faisans, sur le fleuve frontalier de la Bidassoa. Et maintenant, c'est la paix. La France a dominé dans les combats, et le cardinal a joué son avantage dans les pourparlers. Il a gagné d'importantes places fortes, notamment il a obtenu l'Artois, le Roussillon. Quant à la main de l'infante, qui est regardée, cette infante, comme la 8e merveille du monde par ses sujets. C'est évidemment, ce mariage n'est pas sans ouvrir des perspectives pour l'avenir, puisque la jeune mariée est l'aînée des héritiers Habsbourg. Et elle n'a renoncé à ses droits sur la couronne d'Espagne qu'au prix d'une dot exorbitante. Et il le sait très bien, Mazarin, que l'Espagne ne pourra pas payer ce prix-là, ne pourra pas verser la dot. Et donc, ça veut dire que ça ouvrira des droits en période de succession. Voilà le calcul qui a été fait par les négociateurs français. Début juin 1660, Marie-Thérèse épouse donc le roi de France par procuration, comme ça se faisait à l'époque, et puis elle va quitter son royaume, avec une cérémonie pas loin de la frontière à Fontarabie. Pour l'instant, c'est donc un mariage de papier, si l'on peut dire. Le 4 juin, Philippe IV et sa cour entrent sur cette petite île des Faisans. C'est l'heure des retrouvailles entre Philippe IV et sa chère sœur Anne d'Autriche, qui avait elle aussi été donnée à la France comme ça 45 ans plus tôt. Vous imaginez l'émotion, un demi-siècle sans se voir. Anne d'Autriche se précipite littéralement dans les bras de son frère. Sauf que le roi d'Espagne fait un pas en arrière parce qu'il y a cette étiquette espagnole qui interdit évidemment qu'on s'embrasse. Bon, Anne est un peu désemparée, disons-le. Elle dévisage cette nièce, cette future belle-fille en qui, peut-être, elle se revoit elle-même. Et Marie-Thérèse se jette aux genoux de sa tante et belle-mère qui la relève. Tout le monde s'assied et, en espagnol, commence une conversation un petit peu froide, il faut bien le dire. Et puis, soudain, le cardinal Mazarin, que sa modestie n'empêche pas de tout superviser, bien sûr, signale à leur majesté qu'un inconnu est à la porte et demande à entrer. Vous avez bien compris qui est l'inconnu en question. C'est le jeune Louis XIV qui, officiellement, ne doit pas encore rencontrer les Espagnols. On va faire une petite entorse aux usages. En tout cas, c'est ce que pense la délégation française. Ah, mais pas du tout, le roi d'Espagne ne veut même pas en entendre parler. L'infante regarde vers la porte où se trouve son jeune promis, n'est-ce pas ? Elle rougit jusqu'aux oreilles. Sa belle-mère en rajoute un peu. « Eh bien, comment trouvez-vous cet inconnu ? » dit-elle. Et là, le roi d'Espagne dit « Il n'est pas encore temps de le dire. » « Et quand pourra-t-elle le dire ?» demande sa sœur. « Et quand elle aura passé cette porte ?» Et à ce moment-là, c'est monsieur, c'est le jeune beau-frère, hein, c'est le petit frère de Louis XIV qui va détendre un peu l'atmosphère. Il se penche vers Marie-Thérèse et lui dit « Et comment semble cette porte à votre majesté ? Oh, dit Marie-Thérèse, très belle et très bonne. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
La vérité, c'est que pour ce mariage d'État, Louis XIV a sacrifié un grand amour, hein, son grand amour de jeunesse. Vous imaginez, il était fou amoureux de Marie Mancini et il a dû renoncer, bien sûr. Alors, il regarde maintenant cette jeune épouse qui n'est pas disgracieuse. Hein. Elle a des très jolis cheveux blonds, presque dorés, un visage de porcelaine, un petit peu trop plein peut-être, avec le front haut et les yeux bleus. Elle a de jolies lèvres, dit-on, mais ce sont les lèvres Habsbourg qui pourtant ne sont pas si admirables. Elle a une poitrine opulente, une taille assez gracieuse. Elle va pouvoir faire une épouse tout à fait acceptable. Mais comment oublier l'amour que Louis XIV voue à Marie Mancini, cette brune aux yeux profonds. Et là, nous sommes en présence d'une blonde aux yeux bleus de porcelaine. C'est un peu différent, disons. Au moment de faire ses adieux à son pays, Marie-Thérèse fond en larmes. Voici ce que nous raconte une plume autorisée. « Le roi d'Espagne et la reine, sa fille, se quittèrent avec une sensible douleur. Le roi et monsieur, en embrassant le roi d'Espagne comme leur oncle, pleurèrent et s'attendrirent de voir la jeune reine dans une extrême affliction. Elle se mit trois fois à genoux devant le roi son père pour lui demander sa bénédiction et ce prince pleurait en la quittant. » Vous voyez un peu, on ne peut pas dire que ce soit un moment tellement réjouissant finalement. Alors il va y avoir le mariage, bien sûr, à Saint-Jean-de-Luz. D'un côté la cour qui entoure, la suite qui entoure la nouvelle reine, avec les vertugadins espagnols, toutes ces grandes coiffures artificielles, etc. Et puis de l'autre côté, la cour de France, pleine de grâce, d'élégance, bien entendu. Et la petite Marie-Thérèse, très vite, va s'adapter à ces nouvelles modes et à ces nouvelles mœurs, bien entendu. Et elle va montrer beaucoup de joie dans ce mariage, parce que même s'il lui a fallu quitter sa famille, on peut dire d'emblée que Marie-Thérèse va tomber amoureuse de son mari. C'est pas tellement fréquent ça à l'époque, hein. Ça n'est pas prévu au programme, si je puis dire. Mais elle aime ce jeune Louis XIV, qu'il faut dire est assez spectaculaire, assez extraordinaire. Alors, peut-être après tout que cette journée de bonheur qu'elle avouera avoir vécue, une seule journée de bonheur depuis qu'elle est devenue reine, peut-être qu'après tout, cette journée, c'est la première journée qui aurait suivi une nuit de noces éclatante. Vous connaissez bien sûr l'ouverture d'Attis de Lully par l'orchestre baroque Capriccio de Zurich sous la direction de Dominique Kiefer.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, dans les mois qui suivent son arrivée en France, l'obsession de la jeune reine, c'est le rôle que lui assignent les institutions, hein, c'est de concevoir un enfant. Un enfant mâle, bien entendu, étant donné la loi salique qui sévit en France. La France attend ce petit dauphin et tous les regards sont sur Marie-Thérèse, et, évidemment. Et Louis XIV se montre assidu auprès de son épouse, il lui est fidèle, et assez vite, en effet, on va annoncer que la reine est dans une position avantageuse, et ce pour la plus grande joie de la cour. Seulement, la vérité, c'est qu'au lieu de couler du jour serein et de consacrer tous ses soins à cette première gestation, Marie-Thérèse, très vite, va se retrouver dans les affres de la cour de France, parce qu'elle apprend que le roi, qui est un petit peu débarrassé d'elle du fait de sa grossesse, c'est en tout cas comme ça qu'on peut vivre concevoir les choses, le roi partage des moments de plus en plus fréquents et de plus en plus complices, dit-on, avec sa propre belle-sœur, avec celle qui a épousé son petit frère monsieur avec Henriette d'Angleterre, qu'on appelle Madame à la cour. J'ai eu l'occasion de vous parler de tout ça, bien entendu. Et c'est difficile pour Marie-Thérèse de vivre cela. Et ce qu'elle ignore, c'est que les ragots à propos de Madame cachent une liaison en vérité plus sérieuse avec une des dames d'honneur de Madame, qu'au départ Louis XIV avait rencontrée surtout pour essayer de cacher la liaison trop complice qu'il entretenait avec sa belle-sœur. Et la dame d'honneur en question, vous connaissez son nom, c'est une jeune beauté de 17 ans, elle est radieuse, extraordinaire, elle s'appelle Louise de la Vallière. Si la clandestinité, nous dit Joël Chevet, que j'ai toujours grand plaisir à citer, si la clandestinité ajoute du piment aux relations des deux amants, elle s'avère surtout indispensable pour éviter un scandale qui pourrait en outre perturber la grossesse de Marie-Thérèse. Pour autant, au début de l'automne, toute l'Europe est au courant de l'identité de la maîtresse du roi de France. Seule la reine l'ignore. On est toujours le dernier averti dans ces cas-là, vous savez. La naissance d'un fils viable est une immense fierté, c'est un soulagement pour Marie-Thérèse. C'est lui le grand dauphin dont je vous parlais l'autre jour. Est-ce que pour autant c'est un grand bonheur ? Oui, sans doute. Pendant un temps, la reine veut croire que son époux va se ranger, ne serait-ce que par gratitude pour cette épouse qui très vite lui a donné un héritier. Oui, c'est pas aussi simple, évidemment. Les amours du roi avec Mademoiselle de la Vallière battent son plein, comme le révèlent à Marie-Thérèse des ennemis de la favorite. Et certains n'ont rien trouvé de plus élégant pour l'informer de son infortune que de lui faire parvenir une lettre en espagnol, missive qui a été interceptée par une servante, qui l'a fait parvenir au roi. Vous imaginez un peu le climat dans le ménage royal. Alors même que la naissance d'un héritier, il y a quelques semaines, promettait que tout s'arrange. Louis XIV promet à sa femme qu'il va tout faire pour se montrer fidèle. Mais il faut qu'on lui laisse un peu de temps, dit-il. C'est pas bon signe, ça. Marie-Thérèse comprend que ça va être très difficile, et d'autant plus que assez vite, en 1666, va intervenir la mort de sa belle-mère, Anne d'Autriche, qui était en même temps sa tante, vous l'avez bien compris. Et Louis XIV, une fois la reine Anne d'Autriche décédée, une fois la reine-mère partie, alors là, on a envie de dire qu'il n'y a plus de limite. Marie-Thérèse, en se mariant, n'avait pas imaginé qu'elle deviendrait une femme bafouée d'une certaine manière. Et elle est stoïque dans toutes les circonstances. Elle se montre impeccable, si je puis dire, et d'autant plus que les maîtresses vont se succéder dans le lit du roi. Et Marie-Thérèse va bientôt voir son propre carrosse envahi par des femmes dont elle sait qu'elles passent ensuite la nuit avec Louis XIV. Enfin, quand je dis la nuit, souvent, ce sont les après-dîners, comme on disait à l'époque. Beaucoup de chagrin donc pour la reine qui concentre sa, si je puis dire, sa hargne sur Louise de la Vallière. Un jour que le roi est à l'affaire avec toute une partie de la cour, voilà que Louise de la Vallière fait une apparition totalement inattendue. Alors là, le sang de Marie-Thérèse se fige dans ses veines. Et au repas de la mi-journée, qu'on appelle le dîner à l'époque, elle interdit, je dis bien que la reine interdit, conserve la favorite. Seulement, le premier maître d'hôtel craint la colère du roi et donc il sert quand même Louise de la Vallière. Vous imaginez l'émoi, toutes ces dames agitent leurs éventails. Et il y en a une qui dit « Dieu me garde d'être la maîtresse du roi. Si j'étais assez malheureuse pour cela, je n'aurais jamais l'effronterie de me présenter devant la reine. » La dame en question, ce n'est que Madame de Montespan qui va être la prochaine sur la liste, évidemment. Alors, Je ne voudrais pas pour autant vous donner l'impression que toute la vie de Marie-Thérèse se réduite à ses infortunes conjugales. Hein. C'est une femme beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, Marie-Thérèse, et beaucoup plus forte aussi, grâce peut-être à l'éducation des Habsbourg qu'on lui a donnée, beaucoup plus forte que ce qu'on a pu dire. Il y a autour d'elle beaucoup de respect, et elle a des amis sincères qui l'aident, et Louis XIV, en toutes circonstances, lui montre lui aussi, paradoxalement, un grand respect, et celle qui était une ancienne infante d'Espagne et qui ne l'oublie jamais, sans jamais se plaindre, assume ses obligations royales avec une grandeur dont elle ne se départit jamais. Elle a beaucoup de piété, cette reine, beaucoup de charité. Elle va même témoigner une foi ardente et que je crois pouvoir qualifier d'édifiante. Un extrait du motet De Profundis de Lully par le Concert Spirituel.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Au fil des années, ce ne sont pas moins de 6 grossesses que la reine va tenter de mener à terme. Je dis bien tenter parce que c'est pas simple. Seul le premier des enfants qu'elle a donné au roi, le grand dauphin, atteindra l'âge adulte. Hein. Et les autres sont tellement malingres, beaucoup sont morts au berceau et... À défaut d'identifier un seul jour de bonheur, comme le disait la reine sur son lit de mort, on imagine en revanche tous les jours de malheur que cette mère, voyant mourir tous ses enfants, a pu ressentir. Et Louis XIV finit par s'étonner de voir que tous les enfants de la reine meurent de cette manière, alors que les enfants que lui donnent ses favorites, en revanche, ont l'air en pleine forme. Mais un de ses médecins lui dit, c'est le premier médecin, il lui dit « Mais sire, c'est aussi que la reine n'a que les reins sûrs du verre. » L'expression n'est pas élégante, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Et c'est vrai qu'il n'est pas fréquent que Louis honore la reine. Disons qu'il ne découche pas tellement, mais il passe des après-midi entières avec ses favorites, et surtout avec la nouvelle favorite, la terrible Madame de Montespan, que ne peut pas supporter Marie-Thérèse. Vous imaginez bien, après la douce Louise de la Vallière, il faut supporter l'insupportable Athénaïs. Un jour, d'ailleurs, elle a, devant plusieurs témoins, la reine va se laisser aller. Elle dit, oh, en regardant Madame de Montespan, parce qu'elle continue à avoir son accent espagnol néanmoins, cette époute me fera mourir. On comprend la colère de la pauvre reine, même quand pâlit l'étoile de Madame de Montespan et que le nouvel astre se présente à l'horizon, un nouvel astre inattendu en la personne d'une semi-bourgeoise de Paris, une dame très bien sous tout rapport et qui a l'air de beaucoup respecter la reine et qui s'appelle Madame de Maintenon.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Cette nouvelle dame est plus âgée que le roi. Elle ne veut pas, elle, du tout du statut de favorite. Elle est très intelligente et on sait que Madame de Maintenant, comme l'appelle la cour, parce qu'on ne manque jamais un jeu de mots à la cour, bien sûr, Madame de Maintenant veut aider Louis XIV à se rapprocher de son épouse. En somme, conclut Joël Chevet, en 1680, Marie-Thérèse est heureuse comme elle ne pouvait plus penser pouvoir l'être. Le roi recherche sa compagnie, a de longues conversations avec elle, lui témoigne sa tendresse et même son désir. Et voilà ce que dit la reine à propos de la nouvelle favorite qui a ramené le roi dans son propre lit. « Dieu a suscité Madame de Maintenon pour me rendre le cœur du roi », dit-elle. Hélas, c'était une éclaircie qui n'est un peu que le grand rayon oblique de la fin du jour, comme le dit Pierre-Louis Lancel, qui connaît si bien cette période. En juillet 1683, alors que la reine rentre d'un voyage terrible en Bourgogne, on lui découvre un abcès sous l'aisselle gauche, abcès que les médecins vont commettre l'erreur fatale de ne pas inciser, et au lieu d'inciser l'abcès, ils préfèrent faire des saignées, vous savez, alors comme ça, ils conduisent directement la reine au trépas, que voulez-vous. Son règne aura duré moins d'un quart de siècle, et son bonheur, si l'on en croit cette ultime confidence qu'elle a faite sur son lit de mort, son bonheur, lui, n'aura duré qu'une journée. Et vous avez vu le mal que j'ai à la trouver, cette journée, dans l'océan de contrariété, de difficulté et, comment dire, de devoir qu'aura été la vie de Marie-Thérèse d'Autriche.
Vous écoutez Radio Classique.
Le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian.
Vous auriez pu faire la présentation. Bonjour Franck. Et bonjour à tous en espagnol, parce que cet accent que vous avez laissé fleurir et apparemment était tout à fait réussi. Merci mon cher Franck. Cet après-midi, on continue à évoquer les reines. Marie des Inca.
Oui, Marie des Inca, l'épouse de Louis XV, sans doute la meilleure de toutes nos reines de France.
Ah, à noter. Alors, 14h, ne ratez pas le rendez-vous. Et demain matin, avec David Abiquet à 8h05 pour le point du jour. Et bien sûr, à 9h, Franck raconte. Je ne dévoile pas, mais enfin, c'est la grande reine demain, Marie-Antoinette.
Ben oui, nous la rencontrerons en personne.
Je serai là, vous inquiétez pas. En tenue et poudrée.
J'espère bien.